À voix nue, par Pauline Maucor. Toute cette semaine, nous sommes avec
Marie-Hélène Lafont, travailleuse du Verbe.
Cinquième épisode, Rester à la lisière. Bonsoir Marie-Hélène Lafont.
Bonsoir Pauline.
Ce soir, c'est le dernier épisode d'À voix nue qui vous est consacré. Toute cette semaine, nous avons parcouru avec vous les chemins du Cantal. Nous sommes passés par Saint-Flour, Flaubert, Pourrat, Bac. Nous avons remonté la Santoire pour arriver jusqu'aux sources de l'écriture. Et ce soir, j'aimerais que vous nous parliez de votre rapport au lieu d'origine, alors que vous vous préparez à prendre votre retraite de l'éducation nationale et donc à disposer bientôt de plus de temps pour vivre là-haut, dans votre maison du Cantal. Mais avant cela, nous n'avons pas eu le temps de l'évoquer hier soir, votre travail d'enseignante. En quoi est-ce qu'il compte pour vous? Qu'est-ce que vous transmettez? Et est-ce que vous intervenez aussi dans d'autres lieux que l'éducation nationale auprès de jeunes lecteurs?
Mon métier de professeur de lettres classiques, j'ai très tôt eu conscience que le fait d'être professeur de lettres classiques avait quelque chose à voir avec les derniers Indiens. Les professeurs de lettres classiques sont des derniers Indiens, comme les paysans. C'est-à-dire, avec leur latin et leur grec, semblent relever d'un rapport au monde totalement rupestre, archaïque, pas dépassé du tout à mon avis, hein, au contraire, mais considéré par les uns et par les autres comme totalement exotique, voilà, en fait. Donc ça, c'est vraiment un socle commun, comme on dirait dans le jargon éducation nationale, à mon travail de professeur et à mon travail d'écriture. Et ce qui fait socle commun aussi au travail de professeur, au travail d'écriture, c'est que je suis toujours dans la langue. Je n'avais aucune vocation de professeur. Je le suis devenu par raison. Mon père disait « dépêche-toi, dépêche-toi ». Je me suis dépêchée de faire mes études. 1980, j'ai le bac. 1984, j'ai le CAPES de lettres classiques et je suis devant des classes. Et je n'ai pas cessé de l'être depuis. Aucune vocation de professeur au début. Beaucoup de mal à transmettre. Et j'analysais assez bien que je n'arrivais pas à transmettre. J'avais du mal à transmettre, c'est-à-dire à lâcher. Je n'avais pas compris que transmettre, ça n'était pas lâcher, c'était partager. J'avais du mal à lâcher ce savoir qui était si récemment acquis et si chèrement acquis. Et la position de professeur, pour moi, au début, était très inconfortable. Et au bout de quelques années, j'ai trouvé ma place et j'ai appris à aimer ce métier en le faisant. Et j'ai beaucoup de chance parce que, à 2 années de la retraite, en fait, ça ne s'est pas démenti. Ce goût du travail de professeur avec la classe, dans l'espace de la classe, avec les élèves, qui sont, et de loin, ce que l'éducation nationale a de mieux. Je n'ouvrirai pas le chapitre éducation nationale. Je vais le clore avant de l'avoir ouvert, mais avec les élèves, dans l'espace de la classe, j'aime ce travail. Et c'est un travail, puisque j'enseigne en collège, c'est un choix que j'ai fait de rester professeur de collège, c'est un travail dans la langue avec ce que j'appelle le rude rudiment. Donc, nous malaxons la langue avec les élèves. Et je le fais avec ardeur, avec énergie, avec beaucoup de plaisir, avec aussi de grands moments de solitude, hein, parfois, évidemment. Hein. Mais c'est une place à laquelle j'aime être et à laquelle je vais essayer de me tenir jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la retraite. Et à la retraite, en effet, comme vous l'avez souligné, je nourris la haute ambition d'être un peu moins en guerre. Je ne me fais pas confiance sur ce point avec l'agenda, parce que ça, c'est absolument terrible, hein, mon rapport à l'agenda et au temps. Donc, en principe, les mâchoires du temps vont se desserrer et j'aimerais vivre tantôt en pays haut et premier, tantôt ici, à Paris, passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, dans une plus grande liberté, dans une plus grande souplesse. Voilà ce que j'ai l'intention de faire. Et aussi, depuis que j'ai commencé à écrire, depuis maintenant plus d'un quart de siècle, j'ai d'énormes frustrations de lectrice. Parce que le temps de la lecture, il faut toujours l'arracher, c'est une lutte tout le temps. Et je nourris cette illusion que, à la retraite, la lutte sera un peu moins serrée et que je pourrai davantage m'offrir des goulets, des longues goulets de lecture auxquelles j'aspire et que je pratique rarement, faute de temps, parce que le temps est très très quadrillé entre le métier de professeur, même si depuis la rentrée dernière je ne l'exerce plus qu'à temps partiel, il est là, entre le travail d'écriture et l'accompagnement des textes. J'accompagne beaucoup mes livres et il m'arrive de les accompagner dans des structures scolaires qui sont, ne sont pas des collèges, hein, parce que mes livres en collège, non, hein, mais en lycée ou à l'université, en milieu carcéral aussi. Donc j'ai un contact très très régulier, très fourni, que j'aime beaucoup, avec les lecteurs de mes livres. Lecteurs qui sont plutôt des lectrices.
Qu'est-ce qui vous plaît ?
Ce qui me plaît, je crois, hein, c'est que je me rends compte de l'écho que peuvent trouver mes textes. Et fréquemment, je vois s'ouvrir dans la réception des livres des pistes que je n'avais pas vues dans mes propres textes. Ils sont empoignés de telle ou telle façon et vont, avec les lectures qu'en font les uns et les autres, dans des zones où je n'aurais pas pensé qu'ils iraient. Voilà. Il y a souvent des surprises. Et puis il y a des émotions aussi partagées. Ça, ça n'a pas de prix. Et il y a toujours, et ça fait 20 ans que ça dure, hein, et ça c'est toujours très émouvant, il y a vraiment une qualité de lecture, une subtilité de lecture, une intensité, une densité, qui est toujours un cadeau. Voilà. Et j'aime beaucoup comparer les moments de rencontre avec les lecteurs à des moments comme ça, très archaïques, où on se rassemble autour des textes, comme les hommes des cavernes jadis devaient se rassembler autour du feu pour se tenir chaud et avoir moins peur dans le monde et faire face. Ça a quelque chose de très archaïque, la rencontre avec les lecteurs. Et j'aime ça, j'aime la répétition de ce processus. Le rituel est là, et moi j'aime le rituel, profondément. Il me rassure par sa répétition.
Marie-Hélène Lafont, chaque année vous retournez marcher sur les mêmes chemins. Mmh. Comment avez-vous vu ces paysages évoluer, et qu'est-ce que cela dit de la place des hommes qui les travaillent ?
Dans le lieu qui est celui du pays premier, c'est-à-dire ce Nord-Cantal, limite Cantal puis de Dôme, canton minuscule, hein, c'est un périmètre très, très restreint, les paysages ont peu évolué. Ils ont peu bougé. Je viens d'une partie du monde paysan qui n'a pas été totalement essorée par la mise en coupe réglée du paysage par l'agriculture industrielle. Tout simplement parce que le climat et les conditions géographiques qui sont celles de ces pays de moyenne montagne s'y opposent, l'empêchent. Voilà, hein, d'agriculture extensive avec du maïs arrosé, hein, à grand renfort d'eau répandue, hein, là-haut, non. Donc, je ne suis pas témoin de ça. J'en suis témoin quand je traverse la France, et Dieu sait que je la traverse en train. Des chemins se sont fermés, oui, mais d'autres, par exemple, chemins, sont restés ouverts parce que les tracteurs passent dedans. Ce sont les tracteurs qui ont gardé les chemins ouverts. Et l'élément nouveau auquel je pense, quand vous me posez cette question, dans ce paysage que je connais, hein, que j'ai vraiment, dont j'ai les lignes et les courbes en tête, l'élément nouveau, ce sont les bâtiments agricoles. Et ça, en effet, ça imprime un changement au paysage. Oui. Et je me garde bien de cette position qui est souvent celle de ceux qui sont partis, qui vivent ailleurs, qui ne passent pas les hivers dans les pays. Je dis toujours que ceux qui sont vraiment des pays sont ceux qui y passent les hivers. Et moi, ça fait 40 ans que je n'ai pas passé l'hiver dans le Cantal, hein. Donc je me garde bien de cette position qui consiste à vouloir que tout reste en l'état. Et à avoir cette sorte de pulsion comme ça, conservatrice, qui voudrait que le vert paradis des enfances ne bouge pas d'un iota. Non, le vert paradis des enfances, d'abord, un, il n'existe pas. Deux, les gens qui y vivent, qui y travaillent, eh bien, je comprends qu'ils aient envie d'avoir des routes avec moins de tournants, de pouvoir circuler plus aisément, d'avoir des bâtiments agricoles dans lesquels ils vont pouvoir faire le travail en se fatiguant moins et en étant seulement deux personnes là où quatre ou cinq étaient nécessaires, etc. Donc il y a des contraintes, si vous voulez, contre lesquelles, moi, je ne me sens pas du tout légitime, vous voyez, à m'élever au nom de la conservation d'un état ancien des choses. Voilà. Il est probable, il est certain même, que ma position eût été très différente si j'avais grandi dans un endroit où, par exemple, on se serait mis à couper tous les arbres et à arracher toutes les haies, évidemment. Hein. Et ça n'est pas du tout le cas, là-haut.
Et les néo-ruraux ?
Oui, les néo-ruraux. Ah, ça, c'est une sacrée question.
Vous les observez s'installer au pays ?
Il y en a très peu. Les gens connaissent, cependant. Alors, il y a néo-ruraux et néo-ruraux. J'ai des amis très chers, là-haut, qui sont, au fond, des néo-ruraux. Ils sont arrivés il y a 35 ou 40 ans. Mais ils ne sont pas nés là et ils ne sont pas d'origine paysanne.
Est-ce qu'ils se sont intégrés ?
Ils se sont intégrés. Et c'est un couple auquel je pense. Lui, par exemple, est devenu maire du village. Il est maire du village depuis, je crois que c'est sa troisième mandature. Donc, ils se sont intégrés. Mais c'est extrêmement difficile. Et c'est très long. Et j'ai vu aussi l'inverse. C'est-à-dire, j'ai vu arriver des couples qui sont repartis. Voilà. Et je pense à plusieurs personnes... qui sont arrivés, si vous voulez, au moment où moi je partais, grosso modo, hein. Voilà, au début des années 80. Des néo-ruraux vagues post-Covid, par exemple. Vous voyez? C'est-à-dire tout récent. Hein. Je réfléchis en vous parlant. Moi, personnellement, je n'en connais pas. Il y en a certainement. Mais c'est loin, quand même, hein. C'est où? C'est loin. C'est loin et il y a aussi des conditions économiques, tout simplement. Hein. Il y a très peu de travail là-haut. Hein. Donc, soit on peut pratiquer complètement, hein, totalement un métier en télétravail. Donc, ça, c'est possible. Mais si vous voulez, dans un couple, par exemple, hein, si l'un ou l'autre, la femme, par exemple, veut trouver du travail, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. En dehors du maintien à domicile des personnes âgées. Ou du travail dans les EHPAD. Voilà. Et je suis tout à fait consciente, hein, je n'ai pas du tout une vision, d'abord j'ai peu tendance à ça, hein, et en plus j'y passe quand même 10 semaines par an, je n'ai pas du tout une vision enjolivée, voyez, hein, des conditions matérielles d'existence là-haut. Ce dont j'ai une vision totalement irénique et définitivement émerveillée, c'est du rapport au paysage, ce que j'appelle le corps du pays. Ça, oui, mais ça c'est mon histoire personnelle. En revanche, la vie des uns et des autres, telle qu'elle se fait là-haut, elle a vraiment ses rudesses, hein, ses côtés âpres, hein, que l'on connaît, qui sont ceux de tous les territoires ruraux.
Vieux garçon, alcoolisme, adultère.
Alors, ça, c'est pas spécifique, hein, l'adultère, pour le coup. Solitude, oui. Déserts médicaux. Nécessité absolue d'en passer par la voiture. Voilà. Si vous n'êtes plus mobile, vous n'existez plus. Isolement, en effet. Alors, vous voyez, la question des vieux garçons, par exemple, elle est probablement plus spécifique de ma génération que de celle des gens qui ont 40 ans aujourd'hui. Parce que, en tout cas, dans cette agriculture-là, ceux qui sont restés aujourd'hui, qui ont 40 ans, qui sont paysans, souvent, ils l'ont vraiment choisi. Ça s'est, à mon sens, moins fait par défaut que dans la génération précédente, qui était la mienne. Souvent, ils l'ont choisi et ils pratiquent ce que j'appelle... et qui est le cas dans l'annonce, par exemple, ou qui se profile dans Joseph, il pratique ce que j'appelle le couple mixte. C'est-à-dire, souvent, c'est l'homme qui est paysan, et la femme a un autre métier. Les métiers du soin, comme on dit aujourd'hui, hein, très souvent. Hein. Et ces couples-là, vous voyez, ont certainement Et leurs enfants auront aussi, certainement, un autre rapport que le mien au fait d'être paysan, à ce que ça implique de singularité par rapport au paysage du monde tel qu'il se déploie dans la télévision et qui vous renvoie une image de mode de vie qui ne sont pas évidemment les vôtres. Je pense que l'écart qui existe encore est moins grand, moins radical qu'il ne l'était quand j'étais enfant ou adolescente.
Et alors justement, ce monde, ces mondes que vous dépeignez qui sont loin d'être idylliques et idéaux, est-ce que ceux dont vous racontez les histoires vous lisent et comment sont reçus vos romans par ceux que vous décrivez ?
Il est évidemment difficile de savoir si ce que je décris me lise. Ce dont j'écris l'histoire, ce dont j'inscris une trace, il est difficile de savoir s'ils me lisent, parce que je suis bien placée pour savoir, venant de ce milieu, que la place du livre n'y est pas évidente. Je sais, par les bibliothécaires que j'ai beaucoup fréquentés du milieu rural, que les femmes issues des milieux ruraux, quand elles lisent souvent, aiment lire des romans qui ne sont pas les miens, vous voyez, qui sont des romans, alors souvent des romans de terroir d'ailleurs, hein, qui présentent une vision moins âpre et moins rugueuse du monde paysan que celle que je déploie dans un certain nombre de mes livres, ce que je peux comprendre au demeurant. Hein. Je n'ai pas dit que c'était leur lecture exclusive d'ailleurs, hein, mais c'est souvent leur lecture. Et les bibliothécaires, parfois, essaient de proposer à ces dames certains de mes livres dans lesquels elles ne trouvent pas forcément leur place pour l'âpreté susmentionnée et aussi pour des questions liées à la langue, à ma façon d'écrire. Vous voyez, qui présente, par rapport à ce qu'on appelle le bien écrit, un écart qui est peut-être inconfortable. Donc c'est difficile hein, de savoir. Mais, j'ai des indices. Et les indices que j'ai, et ça c'est difficile à dire pour moi, sont de l'ordre de la reconnaissance. C'est-à-dire, c'est nous, on est comme ça. Et ça nous fait honneur.
Qui vous dit ça ?
Mon père.
Alors qu'il ne vous lit pas ? Il ne vous lisait pas ?
Il avait lu, la seule fois où il m'a lu, c'est-à-dire le début, la première partie des pays. Il a lu la première partie des pays. Et il m'a dit, c'est nous, on est comme ça. Tu as raison. Et le « ça nous fait honneur », ça, je l'ai eu notamment après la réception du prix Renaudot. Vous nous représentez et on est fiers. J'ai un voisin et ami paysan qui m'a envoyé ce message. Vous nous représentez et on est fiers. Je sais ce qu'il y a là-dedans de potentiel malentendu, mais en même temps, je ne me refuse pas à cette émotion. Et moins peut-être dans le périmètre géographique des origines, puisqu'à l'épicentre, c'est toujours délicat. Mais combien de fois dans des bibliothèques, par exemple, parce qu'on ne peut pas écrire ce que j'écris et refuser d'aller dans des endroits qui ne sont pas desservis par le TGV. Hein. Donc je vais volontiers faire des rencontres en bibliothèque ou en librairie dans des endroits petits, vous voyez, éloignés. Voilà, j'y vais volontiers. Ça, pour moi, par exemple, c'est politique. Et combien de fois, plutôt les femmes, ce sont plutôt les femmes qui le disent, des lectrices me disent, voilà, moi je suis fille de paysan, ou mon mari est paysan, et on vous lit, et c'est juste, ce que vous dites est juste. Voilà. Alors juste, j'aime bien la polysémie de juste, hein. C'est Pierre Bergogneau qui me l'a fait remarquer au sujet de Joseph, en disant que c'était un monument de justice et de justesse. J'aime bien cette polysémie-là, en fait. Mais je sais que c'est fragile. C'est la corde raide, hein, cette ligne sur laquelle je me tiens comme ça. Parce qu'on est toujours susceptible de trahir ou de dévoiler d'une manière qui sera perçue comme douloureuse offensante, ce à quoi on a touché par l'écriture. Ça, j'en avais une conscience très, très affûtée en écrivant Joseph, par exemple, pour la question de l'alcoolisme, qui est une sacrée question, qui n'est pas spécifique du monde rural ni du monde paysan, mais qui s'y pose en des termes bien précis et dont je ne pouvais pas faire l'économie quand j'écrivais Joseph, le livre des ouvriers agricoles. Et là, je peux vous assurer que j'avais vraiment le sentiment d'être sur une corde raide. Parce que c'est douloureux, parce que il ne faut pas humilier ceux qui sont déjà tellement rabotés, ramassés. Donc j'essaie de mettre le juste mot à la juste place pour faire en sorte que les hommes et les femmes qui furent personnes et qui deviennent personnages dans mes livres ne soient pas livrés en pâture.
Et justement, Marie-Hélène Lafont, l'écart que vous prenez avec le bien écrire, comme vous dites, les libertés que vous prenez avec la langue, la syntaxe, est-ce que c'est une façon de libérer vos personnages, de les libérer de leur assignation sociale et de leur offrir toute une richesse de pensée et de voix intérieure?
Voilà qui me plaît beaucoup, comme hypothèse. Je ne l'aurais pas forcément formulé de cette manière-là, mais ça me plaît beaucoup. Je dis volontiers que ces vies-là dont il est question dans mes livres, si on doit les classer quelque part, on les mettra du côté de ce que on appelle désormais dans le sillage de Pierre Michon les vies minuscules. Voilà. Et au fond, ce que vous venez de dire là, pour moi, rejoint exactement ce que je dis quand je dis que à vie minuscule, langue majuscule. J'entends par majuscule non pas langue qui serait supérieure à je ne sais trop quoi, mais langue déployée, langue qui ne se refuse rien, aventure de la langue, travail du verbe. C'est ce que je cherche dans l'écriture, dans la lecture aussi. L'aventure de la langue. Et toutes les aventures de la langue sont à tenter pour dire ce monde. Toutes. Celle de la ponctuation, celle des enfants que on fait à la langue dans le dos en tordant les chevaux des temps verbaux, par exemple. J'en passe et non des moindres, l'adjectif, la proposition subordonnée relative, la parataxe, etc., etc. C'est, comment dire, le champ des possibles, l'éventail des possibles est infini. Et c'est dans ce déploiement-là que je me tiens.
Et tout ça, vous le mettez au service du déroulement de la pensée de vos personnages. On a l'impression de les suivre, d'être un peu dans leur monologue intérieur.
Dans leur peau, dans leur viande. Au plus près de ce que j'appelle leur polyphonie intérieure. Parce que nos monologues sont des polyphonies. Nous sommes toujours traversés et travaillés par des voix multiples. Et c'est ça que j'essaie de serrer au plus près. Joseph, par exemple, vous voyez, quand j'écrivais Joseph, j'avais physiquement la sensation, ou je tentais en tout cas d'être dans la position dans laquelle étaient jadis les médecins. Mais vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Jadis, les médecins, quand ils venaient, quand vous alliez à la consultation, le médecin, il approchait son oreille de votre... Il écoutait à l'intérieur de vous, vous voyez ? Il vous palpait, il approchait tout près. Mais moi, j'ai l'impression, quand j'écrivais Joseph, j'avais l'impression de me pencher comme ça pour entendre les polyphonies intérieures qui se jouent comme ça, qui se tissent, qui se tressent, qui se nouent dans la conscience de Joseph. Et la conscience de Joseph, elle ne se sépare pas de son corps, de ses mains, de ses pieds, dans les pantoufles à carreaux bleus et verts achetés chez la Cécile au casino. C'est du corps, du geste. Et la pensée va avec.
Et pour vous, Marie-Hélène Lafont, c'est l'écriture qui vous a sauvée de cet îlot, de cette insularité ?
L'insularité perdure. L'écriture est insulaire.
C'est pour ça que vous restez à la lisière, à distance.
J'ai toujours eu cette sensation-là. Être corps étranger dans l'éducation nationale, toujours, et être ce que j'appelle, oui, un écrivain de lisière. D'ailleurs, géographiquement, dans Paris, je me suis toujours tenue à la lisière. Porte d'Italie, porte d'Orléans, porte dorée, géographiquement. Habitée à la lisière. Et l'écriture, au fond, ça serait comme se tenir à la lisière du bois ou des forêts. Vous savez, quand on est à la lisière du bois ou de la forêt, on a tout son frémissement derrière soi. On est traversé par tout le frémissement du bois ou de la forêt. Et ça vibre. Voilà. Eh bien, le travail d'écriture, c'est ça. Le texte est tout habité par cette vibration. Et j'ai tout à fait le sentiment, moi, d'être un être et un corps instrument, habité par ces vibrations. Et donc l'insularité, elle reste, elle est définitive. Mais ça n'est pas une maladie.
Vous la partagez avec vos personnages.
Bien sûr. Et avec les lecteurs. Bien sûr. Bien sûr.
Merci beaucoup, Marie-Hélène Lafont.
Merci, Pauline Mocor.
C'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir. Au revoir depuis la lisière sur laquelle vous vous tenez et depuis laquelle vous construisez des ponts entre les îlots de solitude que nous sommes tous et toutes. Alors un grand merci pour cela. Merci également d'avoir partagé ces 5 soirées avec nous. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour la suite ?
L'ardeur et la douceur. Merci.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, Marie-Hélène. C'était À Voix Nue, Marie-Hélène Lafont. Réalisation Cécile Lafont. Prise de son Yvan Charby. Chargée de programme Daphné Abgral. Une série de Pauline Mocor à réécouter et podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.